serviteur, si tu veux.
Dame de compagnie.
Le serviteur d'Abraham.
Il bénit. On bénit beaucoup, hein. On bénit, il y a quand même malédiction. Si on ne fait pas, et puis on bénit. Alors il laissa partir leur sœur Rebecca avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. Il bénit Rebecca et lui dit, notre sœur, ô toi, deviens des milliers de myriades. On dirait qu'ils ont bien entendu hein, la promesse faite à Abraham. Hein. Deviens des milliers de myriades. Que ta descendance conquiert la porte de ses ennemis. Tiens, on retrouve la même
Maria.
Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Isaac était venu au désert du puits de la Chairoï. Tiens, on retrouve le puits de la Chairoï, hein, là où Agar avait rencontré l'ange du Seigneur, car il habitait au pays du Néguev. Or Isaac sortit pour se promener dans la campagne, une campagne assez aride, il faut dire, hein, à la tombée du soir. Et levant les yeux, il vit que des chameaux arrivaient. Et Rebecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta à bas du chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme-là qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Un signe qu'elle accepte d'être fiancée.
Au revoir.
Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite, et si vous voulez, on peut la raconter encore une fois. Et Isaac introduisit Rebecca dans sa tente, il la prit, elle devint sa femme, et il l'aima. On n'a pas beaucoup parlé d'amour, hein, et il l'aima. Et Isaac se consola de la perte de sa mère.
Il est vite consolé.
Oui, mais on dirait que Rebecca va prendre la place de sa mère, hein, la place importante de sa mère. Il y a comme une succession qui se fait, hein, il l'amène dans sa tente. Oui, c'est un beau récit. Hein. Hein, ce chapitre 24e est extraordinaire du point de vue de la narrativité. Ce qu'on dit, comment on le répète, et on vous raconte d'abord la chose, et puis alors on laisse la parole à celui qui l'a vécu. C'est le même rédacteur qui fait tout, bien sûr. Mais on dirait que la parole du serviteur vient confirmer la parole du conteur. Hein? On voit ça, ça se superpose. Vous aurez la même chose, par exemple, dans les Actes des Apôtres, où vous avez un premier récit de la repentance de Shaoul, là, sur la route de Damas. C'est Luc qui le raconte, et puis au chapitre 22e, c'est Paul lui-même qui le raconte d'une certaine manière, parce qu'il le raconte à des Juifs. Et puis alors, au chapitre 26e, vous avez encore le même récit, mais mis aussi dans la bouche de Paul, qui le raconte cette fois-ci à Juifs et païens ensemble. Et donc, il va insister sur d'autres points, sur d'autres particularités. Bon, alors.
Donc, toute la famille d'Abraham était convertie.
Ça, c'est une conclusion un peu rapide. Donc, moi, je vais tirer une autre conclusion.
Contrition imparfaite, hein, parce que l'homme a joué son rôle.
Ah. Donc, le récit nous montre qu'il y a une convergence dans cette perception de Dieu. Et ce qu'il a dit, le petit détail insignifiant sur la descendance de Nahor, obtient ici sa raison d'être. Pourquoi nous a-t-il parlé de Nahor ? Comme si l'ombre d'Abraham allait s'étendre jusqu'à toute sa famille. C'est autre chose. Si nous allons historiciser le texte, nous allons dire, donc toute la famille se trouve convertie. Comme hein, Rahab qui fait son petit couplet hein, en l'honneur du Seigneur, donc elle s'est convertie. Nous n'allons pas si vite. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire en disant cela hein? L'auteur. Oui.
peut-être aussi parce que plus tard, à l'époque où on lit ce texte, il faut encourager les gens à se marier, je dirais, avec des gens, des vrais juifs plutôt que des étrangers qui sont...
Avec des craignants Dieu, hein, avec des prosélytes ou des craignants Dieu, mais évidemment. Il y a tout ça dans le texte porteur de quantité de choses, et en même temps, vous voyez que c'est décrit de façon très minutieuse, comme si vous y étiez.
Est-ce qu'on connaît la profession du père d'Abraham ?
La profession du père d'Abraham. Mais non, suivant la tradition du Coran, qui est reprise aussi dans la tradition juive, il était astronome. Ben oui, il a compté les étoiles. Si Abraham avait appris à compter les étoiles, c'était quand même parce qu'il avait l'hérédité derrière lui.
Les
cigeurs,
pardon ?
Et il fabriquait des idoles. Oui, ça aussi. Ça va souvent de pair. Hein. L'astrologie peut être idolâtre. Ça sent bon quelque chose. Il suffit de regarder les dernières pages dans le magazine. Sur l'horoscope. Oui ? Il était occupé, hein ?
Casser
les idoles, ben oui. Mais tout ça n'est pas dit dans la Bible, hein ? Tout ça vient ou bien du Midrash, ou bien de la tradition musulmane. Il n'y a personne dans la Bible, mais on aime bien de remplir les vides.
Ça n'a aucune importance qu'il soit son père, son n'importe quoi. L'important, c'est qu'il a un père et qu'il appartient à l'humanité.
Oui, mais dans le texte, il est important de dire que Abraham s'est fié à Dieu, Yahvé. Le texte ne le dit pas en toutes lettres, mais il laisse entendre qu'il y a une distance prise par Abraham entre le polythéisme, l'idolâtrie et le Dieu unique. Il laisse entendre cela. Le Seigneur, Yahvé, donc le créateur du ciel et de la terre. Et il n'est pas seulement le créateur, mais il est celui qui a protégé Abraham, qui a fait alliance avec Abraham, et qui guide les gens avec une certaine providence.
Oui, ça c'est.
Donc il intervient aussi dans l'histoire. Donc, mais évidemment, ce texte a été écrit comme il est là, probablement à partir d'anciennes versions, d'anciennes mémoires. Enfin, il est quand même fort bien composé. Ce texte a été écrit à l'époque de David Salomon. Salomon a été loin d'abord roi à Hébron. Salomon a d'abord été, même s'il était de Bethléem, il a d'abord été loin comme roi à Hébron. Et puis, David, qui est de Bethléem, qui est natif de Bethléem, a été d'abord pris comme roi à Hébron avant de devenir roi des 12 tribus d'Israël. D'ailleurs, lui qui a instauré les 12 tribus d'Israël, même si on les nomme déjà avant. Donc, c'est écrit aussi pour fonder l'ancienneté d'Hébron, du centre d'Hébron, et donc Hébron n'est pas n'importe quelle ville, elle a qui venir, donc, elle remonte à Abraham. Donc, il y a tous ces fils qui sont présents dans l'histoire, il ne faut en lâcher aucun.
Ce qui est remarquable ici, c'est peut-être une des premières fois dans la Genèse, ça se retrouvera plus loin dans les livres de sagesse, comme vous l'avez dit, c'est qu'on ne fait pas intervenir Dieu directement. C'est à travers les circonstances qu'il agit. On ne parle plus de vision ici.
Tout à fait.
C'est les circonstances, le lecteur sait que c'est
Dieu.
Providence de Dieu.
Providence de Dieu.
Mais on laisse jouer totalement les causes secondes sans aucune intervention, un peu comme dans l'histoire d'Esther, par exemple.
L'histoire de
Esther,
oui. Mmh. Oui, oui. Mais Dieu n'agit pas directement, mais il y a un rapport direct avec Dieu. Oui.
D'où l'ambiguïté, et il faut discerner. Du moment que ça se passe dans des médiations, il faut savoir est-ce que c'est vraiment ça que tu as voulu.
Voilà. Et qui est-ce qui va discerner?
Ah, il faut bien que ce soit lui qui discerne.
Il faut bien que ce soit le rapport entre les deux. C'est le rapport entre lui et nous qui va faire, qui va opérer le discernement, oui. Il y a deux questions. Il y a Janine et lui. Pardon ?
On a une petite réponse dans le, à la question que, qui vient d'être posée. Au chapitre, pardon, au verset 21, l'homme l'a considéré en silence, se demandant si Yahvé l'avait ou non.
Oui ou non. Ouais. Exactement. 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 Donc, il faut qu'il se demande. Il a tous les signes, hein? Mais il faut encore qu'il décide. Il a exactement, il a demandé quelqu'un de généreux. Il a justement, mot pour mot, ce quelqu'un de généreux qui lui vient et qui donne à boire, c'est-à-dire qui donne la vie à lui-même et à ses chameaux. Alors maintenant, allons-y, allons-y pas. Il y a une décision à prendre. Et vous voyez comment il discerne aussi pas à pas. Il a un premier discernement à ce moment-là, et puis il va faire ses cadeaux petit à petit, et il va évaluer la réaction.
Est-ce qu'il n'y aurait pas encore sous-jacent implicitement un arrière-fond de reste magique où on veut que Dieu donne des signes très clairs?
Il y a ça aussi. Il y a ça aussi.
C'est qu'il y a dans le fond archaïque de chacun aussi.
Dans le signe, il y a toujours un peu ça. Hein? On voudrait bien qu'il parle clairement. Et Dieu parle toujours clairement pour celui qui sait voir, pour celui qui a l'œil. Qui a l'œil à la source. Hein? Et alors, pas encore.
Ce thème est devenu important aussi pour l'évangile de Coherence, mais c'est l'estime la source dans la vie essayée, là. Il m'a cherché, c'était ainsi comme à la marchette du puits pour m'a attendu. Donc, tu me causas tous les vies, je suis la cause que tu t'es mise en route. Jésus qui attend la Samaritaine.
Oui, oui.
Il n'y a plus tellement d'importance pour les rencontres vraiment salutaires, quoi, vitales, existentielles.
Tout à fait. Il y a Agar qui rencontre l'ange pour lui, il y a Rebecca, Eliezer, là, le serviteur qui rencontre Rebecca au puits, il y a Moïse qui va rencontrer sa femme, hein, le chapitre 2 de l'épisode, là, au puits, le prêtre de Madian, fils de Réuel, hein. Alors la Samaritaine, évidemment, et le texte de la Samaritaine de Saint Jean, est conçu sur ce patron-ci.
Et comme il n'y a pas de puits à Jérusalem, il y a quand même des gens qui portent des cruches pour les préparatifs du repas pascal.
Ah oui, mais il y a une source à Jérusalem. Une seule source, le Gihon. Mais généralement, c'est à la source. Ici, on parle de source et pas de puits. À la Chairoï, on parle de source et de puits. Quand on parle de source, quand Jésus parle d'eau vive à la Samaritaine, il nous dit qu'on va plus la puiser ton eau vive. Nous n'avons qu'un puits. Il faut aller pour avoir la source, il faut descendre à 48 mètres de profondeur. C'est énorme, hein, le puits de Sichem, là. Hein. De Sichar, il faut à 48 mètres de profondeur. Donc l'eau vive, elle se prend là en dessous. Ben, comment vas-tu la prendre, ton eau vive? Or, ici, on nous parle, Aïn, quand on dit Aïn, ce n'est pas Be'er. Be'er, c'est le trou. Be'er, Bir. Hein, en arabe, c'est Bir. Bir Hakeim, etc. Bir, c'est le puits. Le Be'er signifie le puits, tandis que Aïn est beaucoup plus vivant, c'est la source. C'est la source qui pleure. Bon, on va s'arrêter ici. Ah oui, il y a encore une question, par eux.
J'ai
ouais,
peut-être que vous voulez revenir sur Isaac.
Sur quoi?
Sur Isaac, parce qu'il
est resté
un peu
à travers. Oui.
Et j'essaie de comprendre ce qui est génial dans ce récit. Alors, dans le récit du sacrifice d'Isaac.
Oui.
Et je trouve que c'était parfaitement logique, en quelque sorte, du point de vue du roi. Dieu est Dieu. Tout lui est dû, parce que lui, tout vient de lui. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est très bien. Mais il y a alors la justice. justice, il y a aussi l'ordre de l'amour. Et c'est là où il va l'être pour moi. Parce que je trouve que c'est un acte qui n'est pas... Bon, humain, c'est normal, ça dit que c'est l'excuse. Mais qui n'est pas compatible. Je trouve qu'il a raison. S'il y avait encore un Dieu, il pourrait aller donner sa cause et gagnerait. Mais je ne vois pas l'amour dans tout ça.
Ah. Où a-t-il appris l'amour?
Mais bon, Dieu créa le monde pas parce que c'était juste, mais parce qu'il était bon.
Dans la tradition juive, quand on dit qu'il l'aima, on pose vraiment la question, où a-t-il appris à aimer? Et la tradition juive répond comme ceci, il a appris à aimer en voyant jusqu'où pouvait aller l'amour de son père. Et donc pour devenir père, il devait qu'il aime d'une façon aussi grande, c'est-à-dire qu'il donne tout à Dieu. Il a appris à aimer sa femme en voyant son père aimer Dieu. Voilà comment la tradition juive répond précisément à cette question-là. Qu'elle pose? Donc, elle prend le point de vue d'Isaac. Alors nous prenons le point de vue du père et nous disons, donc il a fait un acte contre l'amour. C'est parce que notre mesure d'amour est notre propre mesure. Il a fait un acte d'amour total en donnant à Dieu son fils. Et de fait, quand on donne à Dieu son fils, il vous le rend. Mais c'est différent.
L'acte contre l'amour, je ne l'attribue pas à Abraham, mais à Dieu.
Mais c'est l'acte d'amour le plus grand.
Non, le fait que Dieu demande, c'est, je ne vois pas.
Mais qui est-ce qui répond? À qui Dieu s'adresse-t-il en s'adressant à Abraham? Alors, encore une question qui est posée par la tradition juive, à lui-même.
C'est pas dans le texte.
Qui est-ce qui est vivant dans Abraham? Dieu. Abraham est à l'image de Dieu. Il n'a cessé de le montrer. Et donc, quand Dieu s'adresse au plus intime d'Abraham, il s'adresse à lui-même.
Mais
si je dis ça comme ça, c'est parce que c'est comme ça que la tradition juive pense les choses.
Rashi est compliqué.
Mais il est très simple. Il dit les choses de façon très simple. Mais il dit cela, puisque Dieu est à l'image de l'homme. Puisque l'homme est à l'image de Dieu, il y a en chaque homme cette image, cette profondeur de Dieu. Quand Dieu demande une telle chose à Abraham, il agit contre l'amour. Mais non, il demande tout de lui-même. C'est Dieu qui demande son propre sacrifice. C'est Dieu qui se donne totalement. Et il se donne tellement totalement que Abraham lui renvoie son image. Voilà comment la tradition juive voit les choses. Et il y a une certaine profondeur, mais la question est importante. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est nous qui avons la mesure de l'amour ou est-ce que c'est Dieu?
C'est Dieu, mais on voudrait savoir où.
Te faire confiance totalement, ce n'est pas t'aimer. Est-ce que tu es capable de tout lâcher pour moi?
Non.
Je t'aime pour te demander ça.
Lui, il sait bien qu'il ne va pas être tué. Il joue avec.
Faut que je t'aime pour te demander ça. Est-ce que tu es capable de tout lâcher pour moi?
Si vous voyez les bénéfices, oui.
Un problème d'ignorance. Un problème d'ignorance?
Oui.
En quoi? Si je
voyais ce que tu gagnes, j'ai dit oui. Ah. Si on dit non, c'est pas ton pain, tu ne vas pas y perdre.
Alors si tu gagnes quelque chose, c'est pour toi. Alors c'est plus l'amour.
Il veut les boucles d'or et les chameaux.
L'amour n'est pas perdre, c'est stupide de perdre. L'amour, si l'amour en perd, c'est parce qu'on y gagne en perdant. Il faut que les bilans soient toujours positifs, sinon c'est une idée malade.
Non, c'est un acte, j'ai tout perdu, j'ai tout gagné.
Oui. Oui, mais je ne sais pas ce que je gagne.
Il pourrait inverser, mais j'ai tout gagné parce que j'ai tout perdu.
Ah non. Ah non. Pas j'ai tout gagné parce que j'ai tout perdu, c'est le contraire.
Une dynamique qui nous mène à perdre, ce n'est pas assez à résoudre, c'est pas sain.
Qu'est-ce que je perds?
Des choses qui sont moins bonnes que celles que j'ai gagnées.
Qu'est-ce que je perds? Ma limite. Ma relativité, ma limite, c'est ça que je lui donne. Qu'est-ce que je gagne? Ce qu'il voudra bien me donner. Oui, je lui fais confiance. C'est un je ne sais pas ce que je gagne. Parce que si je sais ce que je gagne, je vais perdre pour gagner.
Je dois être au moins sûr que je vais gagner, même si je ne sais pas.
Voilà, c'est ça la confiance. Ah, oui. La confiance. Je lui fais confiance qu'il me donnera. Qu'est-ce qu'il va me donner, ce que je suis?
Y a-t-il pas là un problème au sein des trois personnes de la Trinité? Moi, ça me tracasse, ça m'affole. Ils n'ont aucun mérite, ces trois-là. Ils ont une réciprocité constante dans l'amour des trois personnes. Nous, on est vu.
Mais ils risquent tout le temps.
Oui, mais ils savent qu'il y a un répondant. Nous, quand on est désintéressés, il n'y a toujours qu'un d'eux.
Mais à ce moment-là, nous imaginons la Trinité d'une manière fort humaine.
Oui, c'est ça.
Je dirais qu'il y a un risque total chaque fois.
Ah oui.
Mais nous ne pouvons pas évaluer cela. Et c'est pour ça que nous atteignons vraiment ici à une limite qui n'est pas vraiment évaluable par nous. Si Dieu est vraiment Dieu, notre bonheur est en lui. Vont lui faire confiance, c'est sur sa parole. Pas beaucoup plus.
Eux voient un visage découvert. Nous sommes dans l'ombre.
De toute façon, pour nous chrétiens, nous voyons que sur les figures prophétiques, pas seulement des prophéties, mais les figures prophétiques, Isaac porte le poids du sacrifice, Dieu donne son unique, etc. Pour nous qui sommes arrivés à un certain terme, nous comprenons toute la valeur prophétique, et c'est une richesse. Alors si on fait trop de psychologie, on laisse tomber la prophétie. Et c'est beau pourtant de savoir que la figure de Jésus se trouve déjà là.
Oui, mais le problème c'est que nous voudrions comprendre. Et c'est vrai, et nous devons le faire, c'est légitime de vouloir comprendre. Et en même temps, il y a quelque chose, il y a une limite qui nous est donnée ici. C'est pour ça que ce que disait le cardinal Daniel, ce n'est pas faux du tout. Nous arrivons vraiment à un cas limite. De quel don s'agit-il et comment ce don de Dieu est-il un amour? Comment la confiance que Dieu fait à Abraham est vraiment un don d'amour? La confiance qu'il lui fait.
C'est aussi l'idée de gratuité, je
trouve. Attends une minute. Oui? Pardon?
C'est aussi une idée de gratuité dans...
Oui. Oui, mais justement, ce qui est dit ici, est-ce que la gratuité totale est humaine? Si je perds simplement pour ne rien gagner, est-ce que c'est humain? Ah, c'est le problème.
Non, parce qu'il y a toujours un effet boomerang que Dieu a voulu lui-même.
Oui, mais nous ne le savons pas, nous ne le connaissons pas.
Mais on l'expérimente. Plus je suis désintéressé, même au plan humain, au plus l'effet de retour me revient. Si je fais quelque chose pour le merci, on ne fera plus grand-chose.
Nous l'espérons, mais parfois nous avons la gratitude comme merci. Oui, alors ça va. Donc nous allons terminer. À la fin de ce texte sur Abraham, apparaît déjà et lié comme cela, l'un à l'autre, Rebecca. Rebecca est vraiment liée à Sarah. Et ils ont voulu le faire comme cela. Parce que, après ceci, il faut encore que nous gardions cela. Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite, littéralement toute la parole qu'il avait faite. Et Isaac introduisit Rebecca dans sa tente. Il la prit, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la perte de sa mère. la perte d'une mère, comme le deuil pour Abraham, c'est un creux. Et ce creux est une capacité. Il y a donc dans ce creux, dans ce vide qui est exprimé par le deuil, il y a une capacité d'aimer qui est cachée, qui doit émerger. Et alors, une chose étrange, Sarah est morte et Abraham se remarie. Abraham prit encore une femme qui s'appelait Keturah. Donc elle avait 127 ans, il en avait 10 de plus, donc ça fait 137. Voyez. Abraham prit encore une femme qui s'appelait Keturah et lui enfanta Zimran, Koshan, Medan, Madian, encore des pays, Yishba, Keshua, Yokshan engendra Sheba et Dedan, et les fils de Dedan furent les Ashurites, les Letushim et les Leumim. Mais vous voyez, c'est intéressant parce qu'on rattache constamment des peuples à cette tradition. Fils de Madian, Epha, Epher, Hanok, Abida, Elda. Qu'est-ce que c'est ça? Fils de Madian. Madian, c'est un territoire. Et les personnages que l'on cite, ce sont des villes. On rattache ces villes à la généalogie. Tous ceux-là sont fils de Keturah. Vous voyez, il y a une promesse qui se faufile un petit peu partout. Quand vous avez de l'eau qui coule, et l'eau qui se, quand elle est arrêtée, elle se faufile partout, c'est un peu ce qui se passe. Il y a une sorte de promesse qui passe à travers tout le pays et les pays avoisinants. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des présents et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac à l'est, au pays d'Orient. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des présents, il faut bien. Et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac. Il ne veut pas qu'il y ait de la bagarre, hein? Il sent ça très bien.
C'est la première fois qu'on dit qu'il y a
au pays d'Orient. Bah oui, on dit ici, pour achever, encore toutes sortes de détails qu'on n'a pas dit. Et alors, il y a, ça se clôture, l'histoire d'Abraham se clôture par ce petit passage. Voici la durée de la vie d'Abraham. 175 ans. Et depuis qu'il est arrivé, là, depuis ses 75 ans, il en a encore vécu 100. Puis Abraham expira.
Quand même.
Il mourut dans une vieillesse heureuse, âgé et rassasié de jours, et il fut réuni à sa parenté. Mourir, c'est être réuni à sa parenté. Alors, attention. Ça, ce sont les fils du récit. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, les deux fils.
Ils se retrouvent pour l'enterrement.
C'est ça. Ils enterrent leurs parents et ce sont les deux fils de nouveau. Macpéla, qui veut dire le double, la dualité, s'applique à Abraham et Sarah, et s'appliquent aux deux frères. Ils se remettent ensemble, en quelque sorte, et ils se réconcilient. Ils étaient loin l'un de l'autre. Mais Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Vous voyez, on dit ses fils. L'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tsorar, le Hittite, qui est vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté au fils de Chet. Là furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Vous voyez, c'est dit de façon assez solennelle pour vous dire, attention, on est en train de clôturer un récit. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, et Isaac habita près du puits de la Chayroï. Donc là où Agar s'était arrêté là avec son fils Ismaël. Mais Ismaël alors, hein? La question se pose. Voilà. Voici la descendance d'Ismaël, le fils d'Abraham, que lui enfanta Agar, la servante égyptienne de Sarah. Il faut bien mettre les points sur les i. Voici les noms des fils d'Ismaël, selon leur nom et leur descendance. le premier-né d'Ismaël de Bayot, puis Kedar aussi, une tribu, Adbeel, Mifsam, Mishma, Douma, Massa, ce sont des villes, Hadad, Tema, Yetur, Naphish et Kedma.
C'est une famille nombreuse.
Ah, bon. Tels sont les fils d'Ismaël et tels sont leurs noms, d'après leur doua et leur camp. À la fois des noms de personnes, des noms de chefs de clan et des noms de...
C'est quoi ça, un douar?
Un douar, c'est un endroit où l'on réside. Der, douar, c'est une résidence. Et leur camp. 12 chefs d'autant de tribus. Vous voyez, on veut montrer la parenté. Isaac, Jacob, 12 fils de Jacob, il y a les 12 qui se profilent, et bien ici aussi, 12 chefs d'autant de tribus. On veut montrer une sorte de parallélisme. Ce qui veut dire que quand Dieu fait quelque chose pour l'un, il le fait pour chacun, mais de manière différente. Voici la durée de la vie d'Ismaël. 137 ans. Puis il rendit l'âme. Il mourut. Et il fut réuni à ses parents. Il habita depuis Havila jusqu'à Shur, qui est à l'est de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'était établi à la place de ses frères. Alors, on a clôturé l'histoire d'Abraham. Mais, vous voyez, on a déjà mis le chaînon pour accrocher le train de Rebecca, c'est-à-dire Isaac et Jacob. Pardon ?
Parmi
le sien, Abraham et Sarah, ou bien le sien du côté
d'Arabe ?
Du côté de sa mère.
C'est pas Arabe, c'est côté égyptien, bien entendu.
Parce que je repense Hébron et...
Oui, mais on n'en dit rien ici. Hein? Et d'ailleurs, lui n'est pas enterré, Ismaël n'est pas enterré à Hébron. Hein? Suivant la tradition, c'est Isaac. D'où justement hein, les bagarres possibles.
Que veulent dire ces grands âges, 160 ans,
120 ans? Ça veut dire le poids d'une expérience humaine.
Oui, alors que la vie est bien plus courte.
Surtout que leur vie était encore plus courte que la nôtre. Encore beaucoup plus courte.
Pour moi, c'est pour l'expérience.
Non, c'est... Ça heurte un peu, ça choque un peu, comme Jésus va choquer quand il va parler de... Hein, le semeur qui sème la semence, et chaque semence donne 30 et 60 et 100 pour 1. Aujourd'hui, ça ne fait pas de problème. Mais à l'époque, ben, un grain en donnait 10, 12, 15 quand c'était magnifique. Non, 30, 60 ou 100 pour 1. Cette exagération veut montrer, au fond, le poids d'une expérience humaine dans laquelle Dieu est présent, en quelque sorte. Chargé d'années. Vivre vieux, ça signifie avoir quand même beaucoup de sagesse. Il y a une symbolique de la vieillesse que nous avons un peu perdue, parce que pour nous les vieillards, c'est quand même une forte diminution, dégénérescence. Pour eux, le vieillard, la vieillesse, c'est vraiment essentiel, parce que c'est eux qui montrent le chemin de l'expérience précisément. Les anciens, dans une ville, les anciens ont un rôle extraordinaire à jouer parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent toute la vie du clan. Et donc, ils ont de la sagesse, ils savent comment on a réagi dans telle ou telle situation. Ils portent en eux toute une jurisprudence, hein. Une expérience, une jurisprudence, une capacité de discernement, c'est un peu tout ça.
Jadis, pour être sénateur en Belgique, il fallait un âge minimum qui était beaucoup plus élevé que pour être à la Chambre.
Tout à fait. C'est un peu le même type d'expérience. Donc voilà l'histoire d'Abraham.
Chacun face à tous ses frères, prêt à leur tomber dessus.
Pardon ?
Dans la que tu lis ça ? Chacun face à tous ses frères, prêt à leur tomber dessus. ce dernier verset. Ah, mais nous, on a la Bible de Jérusalem est plus gentille.
25, 8.
Oui, mais dans le chapitre 1 des chapitres précédents, Dieu promet à Agar, celui-là sera un homme âgre d'homme.
Oui,
sa main ça. Contre tous, la main de tous contre lui, il s'établira face à ses frères.
Exactement.
Ce sera un vision.
Voilà, 25, 18, voilà. Il s'étendit ainsi à la face de tous ses frères. Ah oui. C'est, je vois d'où c'est sorti. Il dit, est-ce qu'on va traduire ça en français? Asher Alpeni Mitzrayim, Boacha, donc jusqu'à en face de l'Égypte, quand tu vas vers Assur, quand tu vas vers Assur, Ashura, Alpeni Chol Echav Nafal. Il est tombé, littéralement, il est tombé sur la face de ses frères. Il est tombé, Nafal, hein, il est tombé, donc il conquérera la porte de ses ennemis. Il est tombé sur la face de ses frères. Donc, il interprète un tout petit peu, et là, je vois que la Bible de Jérusalem ne l'a pas
compris de la sorte.
N'a pas compris de la sorte. Et je vois dans la traduction du rabbinat, la traduction de la Bible hébraïque, il dit ceci: ils habitaient depuis Ravila jusqu'à Chour, en face de l'Égypte, jusque vers Assour. Il s'étendit ainsi, il s'étendit à la face de tous ses frères. Il tomba littéralement sur la face de tous ses frères, Alpene Cholechav, Nafal. Il tomba. Ah oui, difficile, Nafal, est-ce que ça veut dire qu'il s'étendit? Il prit de plus en plus d'expansion à la face de tous ses frères. C'est un peu ce que la Bible de Jérusalem veut marquer, mais il n'a pas traduit le terme, Nafal. L'autre a traduit, leur tomber dessus, Nafal. Je n'avais pas vu ça parce que j'utilise généralement la Bible de Jérusalem, mais voilà. Voilà d'où ça vient. Il y a un Nafal là, on peut le traduire, un Nafal, il tomba, il s'étendit à la face de tous ses frères, il tomba. Mais oui, sur la face. C'est une interprétation. Comment qui dit Chouaki? Comment dit-il Chouaki?
Il tombe sur la face de tous ses frères.
Voilà, on traduit littéralement.
Que veut dire cette
on traduit littéralement.
Cette manière de s'exprimer. Ah. C'est une culture. Dans la tombe, les frères sont déjà là. Et ils tombent. On en perd dessus, quoi.
Il s'est, voilà, je vous donne l'explication que donne la tradition juive. Il s'étendit à la face de tous ses frères, littéralement il tomba. Le verset suivant commence, voici l'histoire d'Isaac. Et alors, il explique simplement ceci. Ceci t'enseigne que lorsqu'Ismaël tombera à la fin des jours, alors seulement commencera l'histoire d'Isaac sous le règne du Messie. Une interprétation juive, oui. Preuve que ce Nafal, ce tomba, n'est pas tout à fait clair. Et donc, si il est gommé dans une, il est traduit dans l'autre, et il met une, dans la tombe, il met une note. Non, et ici non plus. Non plus. Il cite simplement 16, 12, hein, et c'est le chapitre 16, verset 12. Et c'est précisément, il s'établira à la face de tous ses frères, celui qui sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, il s'établira à la face de ses frères. Voilà.
On ne va pas s'étendre là-dessus.
Non.
Bien. Mais est-ce un mot, cher Michikotna?
Quel mot? Lié, délié, allié.
Mais c'est déjà pris pour la naissance, le cordon ombilical. L'enfant est lié pendant 40 semaines, et puis alors il est délié. Et puis il y a une alliance d'échange. La maman qui allait de son enfant, vers le toi et le moi, il y a un échange formidable. L'enfant sait que c'est sa mère, il la reconnaît, il a envie.
Oui, c'est quand une fameuse alliance naturelle.
Mais oui.
Qu'est-ce qui chipote là-dedans?
Bon, parce que précisément, pourquoi voudrions-nous gommer les réalités naturelles, anthropologiques? Notre réflexion se base toujours là-dessus.
Oui, c'est comme hier, j'ai fait exprès de vous dire que Jésus était mort sous les signes de notre naissance, parce que l'eau, le sang et le souffle, c'est la naissance. Les trois sacrements de la naissance chrétienne, c'est vraiment un calcul sur la naissance humaine.
Absolument. Et c'est à la croix qu'il le donne. L'esprit, l'eau et le sang. Il y en a trois qui rendent témoignage et ces trois ne font qu'un, comme il dit dans la première épître.
Tant que tu as posé, j'ai pas de Vous avez parlé de je crois, je suis vu, les mots fort chargés, fort nuancés, des détails. Vous avez jadis insisté sur le radical Shim-Sham-Shem. J'appelle, je suis appelé, je réponds, etc. Mais en français, quand on regarde bien, j'appelle quelqu'un. Et si je demande à un enfant comment tu t'appelles, il pourrait me dire je ne m'appelle jamais, je me laisse appeler. Et c'est un verbe à la fois, donc réciproque. Et quand on dit d'un enfant qu'il a scoupé, il écoute bien, ça veut dire qu'il obéit. C'est un verbe chargé, même en français.
Mais attention, ce n'est pas appelé en hébreu. Pas appelé, c'est se nommer. C'est pas la même chose. Appeler, c'est autre chose. On ne s'appelle pas en hébreu. On se nomme. C'est pas la même chose. Il y a deux racines différentes. Shama, c'est écouter, entendre, obéir. Shem, c'est le nom. Sham, c'est là. Sham. C'est là, ici, là. Sham, Shem, et souvent, il y a des jeux de mots dans la Bible, Sham, Shem et Shama. Entendre, être là, et porter un nom, se nommer. Donc, ce n'est pas tout à fait appelé. Le jeu de mots peut se jouer en français, mais il est différent en hébreu. Ce n'est pas tout à fait appelé, c'est kara, appelé. Et kara veut dire à la fois... appeler, lire, proclamer, crier. Le cri, c'est kara. Une lecture, c'est keria. Le Coran, c'est ce qui se proclame. La Bible, mikra, c'est ce qui se proclame. Proclamer.
En italien aussi, come ti chiami, comment tu te clames?
Tu te clames, oui.
Comment tu t'appelles?
Mais oui, mais ça, c'est la racine appeler. Voilà. Alors, nous avions deux frères. Deux frères étaient de mères différentes. Nous allons avoir deux frères de même mère. Donc l'histoire se corse. Et en plus, ce sont des jumeaux. Et les jumeaux sont toujours quelque chose qui apparaît d'abord comme anormal. Donc les jumeaux apparaissent comme n'ayant pas deux identités véritablement distinctes. On peut les confondre. Et les jumeaux, dans beaucoup de littérature, Castor et Pollux, etc., hein, les jumeaux, qui sont souvent des fils de Dieu ou de demi-dieu, introduisent dans la réalité courante, normale, quelque chose d'anormal, qui inspire la crainte. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et vous voyez, on reprend l'histoire, pour qu'on ne perde pas le fil. Isaac avait 40 ans, lorsqu'il épousa Rebecca, maintenant vous le savez, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora le Seigneur pour sa femme, car elle était stérile. Curieux, hein? Vous voyez, la stérilité veut nous dire quelque chose.
Il y a des tares de famille.
Oui, mais, ah oui. Mais on ne sait pas si elle vient de la même souche. Enfin, car elle était stérile. Le Seigneur l'exauça et sa femme, on ne vous raconte plus toute une histoire comme avec Abraham, le Seigneur l'exauça et sa femme Rebecca devint enceinte. Or, les enfants se heurtaient en elle. Et maintenant, il ne faut pas attendre qu'on soit né pour qu'on se bagarre, on se bagarre déjà dans le sein maternel. Eh bien, ça veut dire que, vous voyez ce que ça veut dire, c'est que la violence est quelque chose qui est en quelque sorte inné. C'est pas quelque chose qui vient après, mais ça vient déjà dans le sein maternel. Dès qu'on existe, il y a une violence en nous. Les enfants se heurtaient en elle et il dit, s'il en est ainsi, à quoi bon vivre? Ça se bagarre déjà dans le sein maintenant. Elle alla donc consulter le Seigneur. Ouais. Il faut évidemment un discernement. Elle l'a consulté le Seigneur. Qui lui répondit, il y a deux nations en ton sein. Deux peuples issus de toi se sépareront. Ah. On vous raconte prophétiquement l'histoire. Deux peuples, il y avait déjà deux peuples. Il y avait Ismaël et Isaac. Et voilà que Isaac lui-même va se diviser. Se séparons, un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. Ici, vous avez déjà tout le programme. Tout le programme est fait. L'aîné servira le cadet. Donc, il y a à la fois deux peuples, mais ici, il va y avoir de nouveau inversion de la réalité normale. Normalement, c'est l'aîné qui prime, qui a la préséance sur le cadet. Eh bien, non. L'aîné servira le cadet. Qui va montrer justement cette inversion, va montrer l'intervention divine. Elle alla consulter le Seigneur. Ceci est dit évidemment pour Madame Rebecca, mais pour le lecteur aussi. Quand vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Le premier sortit. Il était roux et tout entier comme un manteau de poils. Ce qui va arriver plus tard est déjà présent en la naissance.
On dit la même chose de David,
il était roux. Ah oui. Et il avait de beaux yeux. Il a fait Ben Naïm.
C'est une signification.
Roux, oui, hein, ces gens sont noirs d'habitude. Hein.
Mais est-ce que ça veut vraiment dire roux dans